Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique à la une de l'économie. Ce matin, l'heure des coupes claires chez Air France. La direction du groupe va officialiser aujourd'hui la suppression de plus de 7500 postes d'ici 2022. 6500 chez Air France, c'est 16% des effectifs, et 1 millier dans sa filiale régionale Hop, soit 40% des équipes. Céline Cajoulis.
Après avoir perdu 15 millions d'euros par jour pendant la crise et avoir vu son chiffre d'affaires fondre de 95%, la direction cherche à tout prix à réduire les coûts et à accélérer la transformation du groupe, et cela passera entre autres par la réduction des effectifs. Chez Air France, on table surtout sur 3500 départs naturels et on espère que 3000 personnes prendront le plan de départ volontaire. Les pilotes ont déjà accepté 430 départs, les hôtesses et stewards 1680. Pour le reste, il faudra réduire les effectifs au sol. Bercy estime qu'il ne doit pas y avoir de départ contraint, mais la direction n'a pris aucun engagement sur le sujet. Chez Hop, on va supprimer 330 postes de pilotes, l'autre partie sera transférée chez Transavia, la filiale low cost. Il y aura également 290 suppressions d'emplois chez les personnels navigants et plus de 400 chez les agents au sol. Les sites de maintenance de Morlaix et de Lille seront sans doute fermés, tout comme la base navigant de Toulouse. Enfin, le parc sera réduit de 30 avions puisque certaines liaisons province-province vont disparaître et que les autres passeront chez Transavia. Air France espère un retour à l'équilibre à horizon 2023.
L'emploi paye un lourd tribut à la crise également chez Airbus. On le savait, le groupe prévoit de supprimer 15 000 postes. 5100 en Allemagne, 5000 en France, 1700 au Royaume-Uni. Et la direction a dévoilé hier le détail site par site. Ce seront donc 600 postes perdus à Saint-Nazaire, près de 500 à Nantes et pas loin de 3500 à Toulouse. Où sont regroupés le siège d'Airbus, les lignes d'assemblage aussi de l'avionneur, ainsi que plusieurs de ses filiales. C'est un véritable cataclysme dans la ville rose et à Blagnac, sa voisine surnommée Airbus City, qui redoute maintenant un effet de contagion à toute l'économie locale. Reportage Estelle Henry.
Et parmi les plus impactés par la crise, le secteur du numérique. Il concerne 45 000 emplois en Occitanie. Anne Détouche, déléguée régionale du syndicat Syntec Numérique Occitanie.
C'est 10 000 pertes d'emplois d'ici la fin de l'année si les projets Airbus ne reviennent pas à l'ordre du jour. Donc c'est une situation dramatique pour les salariés, pour leurs familles, pour la région.
Une crise qui pourrait toucher à terme tout le tissu économique toulousain. Nathalie Mouret est co-gérante de l'agence immobilière L'Atelier de l'Immobilier. Elle craint une baisse des prix des biens immobiliers d'ici quelques mois.
C'est très difficile d'envisager l'avenir. Ça pourrait créer, je dirais, un déséquilibre. S'il n'y a plus d'acheteurs, forcément, il n'y a plus de ventes. Ça va être compliqué.
Alors, le risque de contagion à toute l'économie est-il réel? Non, pour Christophe Benaroya, professeur et responsable des activités aerospace à la Toulouse Business School.
On peut imaginer, effectivement, dans les pires scénarios, un destin à la Détroit, mais je n'y crois pas. Donc, oui, il y a une dominance évidemment du secteur, mais on a les ressources et les compétences dans la région pour pouvoir rebondir et amoindrir l'impact socio-économique sur la ville et la région.
À Toulouse, plusieurs secteurs comme l'intelligence artificielle ou la mobilité pourraient permettre la reconversion de nombreux salariés impactés.
Voilà, Estelle Henry à Toulouse. D'ailleurs, il y a une lueur d'espoir pour les Airbus ce matin dans l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus, estime pouvoir sauver jusqu'à 3500 postes, si Berlin et Paris apporte une aide en soutenant notamment le développement de l'avion à hydrogène et en étendant le chômage partiel dans les 24 prochains mois. Un mot encore de l'aérien, c'est avec le Portugal qui renationalise la compagnie TAP. Lisbonne va prendre 72,5% du capital de TAP pour sauver ce maillon essentiel du tourisme qui est l'un des moteurs de l'économie portugaise.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
Il est 6h43, feu vert du Parlement à la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Ce sera donc le 11 juillet, samedi prochain, avec de possibles restrictions tout de même jusqu'à l'automne. Le vote a eu lieu hier soir à l'Assemblée nationale. Les députés ont également adopté toute une série de mesures de soutien sectoriel. Ainsi, 50 millions d'euros iront à la culture pour les festivals, le livre ou encore les médias. 100 millions pour les chambres de commerce, contre l'avis du gouvernement d'ailleurs. Et un acompte aussi de 425 millions pour les transports d'Île-de-France. De l'argent bienvenu, mais qui sera insuffisant pour couvrir les plus de 2,5 milliards d'euros de pertes d'Île-de-France Mobilité depuis le mois de mars. D'ailleurs, l'Union des Transports Publics, le syndicat professionnel du secteur, a renouvelé son appel à l'État pour un soutien massif hier, estimant que les transports publics pourraient perdre jusqu'à 20 000 emplois sur 100 000 dès cette année. Comment inciter les entreprises à embaucher des jeunes à la rentrée? Ils seront 700 000 à faire leur premier pas sur le marché du travail. Emmanuel Macron doit présenter un grand plan la semaine prochaine pour les jeunes. jeunes. Mais alors, il y a quand même débat en ce moment sur les leviers à activer. Qu'est-ce qui serait le plus efficace? Une baisse de charges salariales qui coûterait 8 milliards d'euros à l'État, ou bien une prime à l'embauche des jeunes? Rien n'est arrêté pour l'heure, mais le MEDEF lui penche plutôt pour la prime. Écoutez son président Geoffroy Route-Bézieux.
L'avantage de la prime, c'est qu'elle a plus d'effet de levier sur les jeunes non diplômés qui rentrent donc au SMIC et dont le niveau de charge sociale est beaucoup plus faible. Et on peut imaginer que même si ça sera difficile pour tous les jeunes, ça sera plus difficile pour les jeunes non diplômés ou faiblement diplômés. De notre côté, on essaiera de monter une forme d'engagement des grandes entreprises à maintenir leur recrutement de jeunes, tous diplômes confondus. C'est un signal assez fort pour pas qu'il y ait un fossé générationnel qui se creuse. On peut dire que le Covid a été très naturellement le choix de, entre guillemets, sauver nos aînés. Il ne faut pas que la génération qui arrive sur le marché soit sacrifiée. Donc là, je pense qu'il y a une forme de consensus.
Le président du MEDEF, Geoffroy Route-Bézieux, au micro d'Émilie Vallès. À l'étranger, fort rebond de l'activité dans les services en juin en Chine. L'indice PMI des directeurs d'achat grimpe à 58,4. C'était 55 en mai. C'est un niveau inégalé depuis plus de 10 ans. L'indice global service plus industrie atteint même 55,7, au-delà donc du point d'expansion de l'économie. L'actualité des entreprises. On a beaucoup parlé pendant la crise du Covid de l'absence d'une Europe de la santé. Eh bien, en matière de paiement, c'est la même chose. L'Union restait à bâtir. Eh bien, on a une bonne nouvelle, c'est que c'est chose faite. 16 banques de 5 pays de la zone euro lanceront d'ici 2 ans un nouveau système de paiement européen unifié. Son nom, EPI, European Payment Initiative. Fini les solutions de paiement nationales. C'est aussi une question de souveraineté face aux Américains Visa et Mastercard. Écoutez, Julien Maldonado, il est associé en charge de l'industrie financière chez Deloitte.
C'est important que la donnée reste en Europe, soit supervisée par des régulateurs européens et maîtrisée de bout en bout presque par des acteurs européens, parce que l'exploitation qui en est faite derrière est potentiellement mieux maîtrisée quand ça reste, entre guillemets, absolument entre Européens. Si on veut avancer en tant que citoyen européen, il faut quand même essayer de redonner de la confiance en nos institutions et se dire que si elles maîtrisent au mieux nos données personnelles et ces futures autoroutes de transfert d'informations, ça peut quand même être un facilitateur dans un monde très globalisé où finalement on ne sait plus ce qui est fait de nos données.
Dans l'automobile maintenant, on s'arrache les primes à la conversion. Déjà 100 000 accordés sur les 200 000 disponibles selon Bruno Le Maire. Ce sont ces primes qui ont tiré le marché automobile en juin. Le Bon Coin, lui, embarque les hôtels Accor, partenariat majeur pour le site de petites annonces avec le numéro 1 français de l'hôtellerie qui sera exempté de commission sur les réservations réalisées sur Le Bon Coin. Et puis autre partenariat, c'est Decathlon qui vient s'installer dans les rayons de Franprix pour une offre d'articles de sport dans les magasins de proximité du groupe Casino. Les marchés pour terminer, la Bourse de Paris en forte hausse hier, plus 2,49%, 5049 points. Le marché parisien rassuré sur l'économie américaine qui le mois dernier a créé près de 5 millions d'emplois. C'est une énorme surprise en dépit de la situation sanitaire là-bas. Aux États-Unis, à Wall Street, le Dow Jones plus 0,36%, 25 827 points avec encore un bond de près de 8% pour Tesla, nouveau record de prix pour l'action du constructeur de voitures électriques. 6h48 sur Radio Classique, le Focus Éco dans un instant.